Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Florian Delorme.
Place à la question du jour, 3,7%, c'est le taux de croissance mondiale pour l'année 2018. Pourtant, malgré cette bonne santé presque insolente, l'heure n'est pas à la fête. Au contraire, le pessimisme et l'inquiétude dominent. En cause, la méforme des marchés financiers qui, eux, ont connu de très fortes baisses depuis le début de l'année. CAC 40, Nasdaq, Nikkei, Dow Jones, tous les marchés financiers ont fléchi, y compris Wall Street. Alors faut-il s'inquiéter? La future crise financière est-elle sur le point d'advenir? Bonjour Sébastien Jean.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et directeur du CEPI, Centre d'études prospectives et d'information internationale. 2018, plutôt une bonne année, voire une très bonne année pour la croissance mondiale. Et pourtant, l'année n'a pas été bonne pour les principales places boursières. Comment le comprendre? Comment peut-on avoir à la fois une bonne croissance mondiale et en même temps des marchés financiers si mal en point? On pensait que l'un allait plutôt avec l'autre.
Pas toujours. Hein. C'est pas fondamentalement inhabituel d'avoir cette déconnexion, en particulier quand on est plutôt en fin de cycle. Et c'est la situation dans laquelle on se trouve, pour autant que la notion de cycle économique au niveau mondial ait un sens, quand on fait la moyenne, en tout cas, c'est-à-dire ce qu'on peut faire de mieux pour avoir une vue d'ensemble, on voit que l'économie mondiale a eu effectivement une croissance assez élevée, mais qu'elle a désormais passé son pic. Elle l'a passé en gros, son pic en termes de rythme de croissance, c'était plutôt au niveau de 2000, du début de 2018. Et aujourd'hui, bon, on est en phase de ralentissement léger et plus ou moins marqué selon les zones, avec un certain nombre d'interrogations sur ce qu'il va se passer ensuite. Et c'est ça, avant tout, que reflètent les marchés financiers, dans un contexte où, en plus, on le sait, les anticipations des marchés financiers, elles se font avec beaucoup de mimétisme et souvent une rationalité assez limitée.
Bon, donc l'économie mondiale a atteint son pic de croissance, on est sur le point d'amorcer le ralentissement, mais est-ce qu'une décélération de la croissance mondiale est nécessairement synonyme de crise financière? Ou est-ce qu'en tout cas, ça augmente la probabilité?
Pas nécessairement. Effectivement, la question est de savoir si on arrive à contrôler ce ralentissement. Je crois que structurellement, ce à quoi on fait face aujourd'hui, c'est au fond le défi de la gestion de l'après-crise. C'est-à-dire qu'on a ce ralentissement, mais on est dans des conditions où on voit que les marges de manœuvre disponibles pour les politiques économiques pour amortir l'effet de ce ralentissement sont très limitées. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il y a eu cette grave crise économique et financière mondiale il y a 10 ans, qu'on a mis en œuvre des politiques budgétaires et monétaires extraordinaires pour amortir ces effets et qu'aujourd'hui elles n'ont pas complètement reflué. Donc en particulier au niveau monétaire, on est en train d'essayer de normaliser les politiques monétaires. Donc il y a un resserrement, c'est ce qu'on a vu il y a 10 jours avec la Fed en particulier, la hausse de ses taux d'intérêt, puis la Fed est en train de retirer des liquidités aussi. Et donc tout ça, ça met les marchés un peu sous tension.
On va revenir sur les taux d'intérêt, mais depuis le 1er janvier, le CAC 40, il a perdu environ 13%, le Nasdaq 10% en un an, le Nikkei 11% depuis le début de l'année. Et quant à la bourse de Wall Street, elle enregistre sa pire année depuis 10 ans, donc depuis la crise de 2008. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut dire que cette baisse générale des marchés financiers annonce une crise financière? Est-ce que de telles baisses sont le prélude à une crise plus profonde? Que nous dit l'histoire des crises sur ce point?
L'histoire des crises, elle nous dit que il y a toujours une nouvelle crise financière qui se profile et elle est jamais exactement la même que la précédente. Dans le cas d'espèce, je crois que dans une certaine mesure, une correction n'est pas forcément mauvaise, simplement parce qu'on était arrivé à des niveaux de valorisation des bourses qui étaient extravagants selon un certain nombre de mesures et qui étaient en grande partie liés d'ailleurs à cet afflux de liquidités qui a été mis, qui a été injecté dans les économies pour absorber les effets de la crise. Donc le fait que ça diminue, c'était nécessaire, disons, c'était inévitable. Au fond, il vaut peut-être mieux que ça se fasse dans une certaine mesure de façon relativement progressive plutôt que d'une façon brutale, comme ce qui est une crainte et ce qui pourrait être une cause de crise parce que ensuite, il y a des effets sur la richesse des ménages, par exemple, qui peuvent être très importants.
Donc finalement, on peut se réjouir de cette correction, pour reprendre votre terme. Vous avez évoqué tout à l'heure la question du taux d'intérêt parce qu'effectivement, pour comprendre ces inquiétudes financières, il faut introduire cet élément central, le taux d'intérêt, qui est au cœur des politiques monétaires des États, sont des objets que les économistes scrutent avec beaucoup d'attention. Ils guettent avec une certaine angoisse ce qu'on appelle l'inversion des taux de la courbe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Sébastien Jean, avec un peu de pédagogie, en quelques mots, pourquoi ces taux d'intérêt sont si cruciaux et en quoi sont-ils en ce moment un motif particulier d'inquiétude?
Les taux d'intérêt sont très importants parce que c'est le prix que l'on paye pour s'endetter. Et ils sont particulièrement importants aujourd'hui parce que l'économie mondiale n'a jamais été aussi endettée. On a eu une crise économique et financière il y a 10 ans qui était une crise de l'endettement. Et pourtant, depuis, le niveau d'endettement a augmenté significativement. Quand on prend les pays, enfin, un ensemble qui est assez significatif parce que c'est le cœur du marché financier mondial, le G7 plus la Chine, on avait un ratio, le crédit en relation du PIB qui était 210% en 2008 et qui est aujourd'hui de 260%, hein, donc qui a augmenté de 50 points. Donc, très significativement. Donc, quand on est très endetté, eh bien, le niveau des taux d'intérêt est très important pour le coût de ces dettes. Et ça veut dire que si les taux d'intérêt augmentent significativement, et on est donc dans cette phase de normalisation, de remontée des taux d'intérêt, ça risque de peser très lourdement. Et comme avait dit de façon fameuse Warren Buffett, c'est quand la mer descend qu'on voit qui se baignait sans maillot, c'est-à-dire qui n'était pas vraiment assuré par rapport à sa santé financière.
Mmh. Vous avez évoqué la crise de 2007-2008. Est-ce que vous diriez que globalement, le monde est mieux protégé aujourd'hui face à l'émergence d'une nouvelle crise financière qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'on a tiré les leçons de cette crise?
On a tiré certaines leçons, c'est-à-dire qu'on a introduit un certain nombre de régulations dans la finance. Ça ne veut pas dire que les mesures qui ont été prises aient été suffisantes, parce qu'elles ont été aussi limitées par certains aspects. Je viens de dire par ailleurs que l'endettement global a augmenté, donc ça laisse un peu perplexe par rapport à ce qui a pu être fait. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est aussi que l'histoire des crises financières, c'est une histoire de mesures pour remédier à la crise qui vient d'avoir lieu, et puis progressivement d'amnésie aussi par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Et on voit aujourd'hui que les mouvements ou les appels à dérégulation dans un certain nombre de pays, en particulier ce qui est en train de se faire aux États-Unis, sont inquiétants à cet égard.
Vous avez dit tout à l'heure, Sébastien Jean, que le monde avait atteint son pic de croissance depuis plusieurs mois. Donald Trump, on le sait, s'est engagé dans une véritable guerre commerciale avec la Chine, évidemment, mais avec le reste du monde aussi, avec le Canada, le Mexique, l'Europe, en augmentant les tarifs douaniers sur toute une série de produits. Dans quelle mesure cette guerre commerciale a participé justement de ce ralentissement de l'économie mondiale? Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les deux?
C'est très difficile de faire cette corrélation en pratique parce que il y a eu effectivement la guerre commerciale qui a pu être un élément de freinage, mais dans le même temps, les Américains notamment, mais les Chinois aussi, appuyaient sur l'accélérateur. Ça a été aux États-Unis cette réforme fiscale votée il y a un an, une très forte baisse des impôts. Je rappelle qu'il s'agit de 1500 milliards de baisse d'impôts, de dollars de baisse d'impôts sur 10 ans. Et puis en Chine aussi, d'ailleurs, il y a eu des mouvements des politiques d'accélération pour conjoncturelle pour soutenir l'activité. Donc on a ce côté un peu frein et accélérateur à la fois, talon-pointe, qui rend difficile de lire la trajectoire de l'économie. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la guerre commerciale, les tensions commerciales sont devenues l'un des principaux indicateurs, l'un des principaux déterminants de la nervosité très forte que l'on sent dans les places boursières internationales, simplement parce que pour les grandes entreprises, c'est une condition de leur activité et de leur profitabilité qui doit déterminer leur cours de bourse.
Est-ce que vous pensez que Washington et Pékin pourraient se mettre d'accord dans les semaines, dans les mois qui viennent pour régler leurs différends commerciaux?
D'un côté, on sent une très forte volonté politique d'arriver à un accord. Et de l'autre côté, on voit aussi que le fond du différend, la substance, est quelque chose de très profond qui ne peut pas être réglé en 2 ou 3 mois.
Merci beaucoup Sébastien Jean d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes directeur du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Pour en savoir plus, l'ouvrage collectif auquel vous avez participé, Économie mondiale 2019, paru à La Découverte. Merci beaucoup.